Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 12, épisode 9! 2008, le rat de terre. Et là, vous comprendrez que comme Pierre n'est pas avec nous, il n'y a pas de petits sous-titres fancy pour l'épisode. Mais je suis quand même en compagnie de deux magnifiques chroniqueurs. J'ai nommé Steve et Antoine. Bonsoir, messieurs.
Bonsoir, Simon. Bonsoir,
Steve. Messieurs. Comment allez-vous?
Oh oui.
Très bien, on est en forme.
On approche la fin de la saison.
Non.
Il reste seulement un épisode. Alors, on a oublié de le mentionner d'entrée de jeu, mais là, on approche Noël. Hein, fait qu'il fait froid, il y a de la neige dehors. Donc, mettez-vous dans l'ambiance à la maison.
Ben, il neige pas toujours quand même en décembre, là, malheureusement.
Ah, c'est vrai. Habituellement, à ce temps-ci de l'année, il neige pas. Vous comprendrez qu'on enregistre cet épisode un petit peu avant la date officielle. Donc, on sait pas exactement la température qu'il
faut. Je me suis mis une petite laine, moi. J'ai froid.
Ouais.
Je m'en viens vieux, là.
Les Toms, le café, la petite laine, c'est parfait pour un enregistrement.
Ah non, une camomille, pas un café quand même.
Oui, oui, une camomille, c'est vrai, exact. À la François Legault, hein, c'est ça?
Voilà.
Excellent. Alors, ben, on est parti. Avant de se lancer un petit peu, on va quand même remercier les Patreons. Merci beaucoup encore une fois, les Patreons, de continuer de nous suivre dans cette aventure-là. Merci aussi à tous les autres personnes qui nous écoutent. On a d'ailleurs enregistré des nombres records d'écoutes cette saison-ci. Alors, merci beaucoup. Continuez de partager en grand nombre comme vous faites depuis le début de la saison. Là, vraiment, on a explosé nos chiffres. Donc, on est vraiment contents, là, de que ça continue sur cette lancée. Donc, on va y aller avec, comme on fait habituellement, un petit contexte de l'année 2008. Qu'est-ce qui se passait en 2008? On était où? C'était quoi? Y avait-tu quelqu'un qui voulait intervenir avant qu'on se lance?
Non, mais je me rends compte qu'en 2008, c'était quand même relativement proche. On parle de juste 14 ans, mais je me rends compte qu'il y a plein de choses que j'avais déjà oubliées.
Effectivement, c'est vrai que ça fait pas si longtemps pour nous, mais il s'est passé beaucoup de choses. Dans le fond, bon, on va commencer un petit contexte politique, mais en réalité, ce qui se passe au niveau économique est beaucoup plus gros. On va y revenir après, mais on est en plein cœur de la guerre antiterroriste. Saddam Hussein a été tué il y a 2 ans. On est toujours à la recherche d'Oussama Ben Laden. La guerre en Irak a coûté depuis le 2001, on va dire, mais même ça n'a pas commencé directement à ce moment-là, 3 000 milliards de dollars. C'est des chiffres complètement fous, en fait. C'est difficile de concevoir que ça a coûté 3 000 milliards de dollars en à peine 7-6 ans. Quand même assez incroyable.
C'est environ le montant qu'on reçoit des Patreons, ça, right?
En fait, c'est le double de qu'est-ce qu'on reçoit de la part des Patreons.
Ah, OK.
On parle de 3 trillions quand même, là. On peut même changer de mot, là.
C'est ça, exact. Je cherchais exactement le vrai mot, là. En français, c'est pas clair, là. C'est-tu vraiment des trillions? C'est-tu des billions? Mais les billions, c'était des milliards en anglais. Fait qu'en tout cas, il y avait un peu de confusion. Fait que pour être sûr, je me suis dit, c'est 3000 milliards. Donc la chose juste après des milliards, si vous voulez être plus fancy à ce niveau-là. C'est des gros chiffres, on s'entend. C'est aussi l'élection de Barack Obama, en fait, qui est un moment, pour certains vont dire, le meilleur ou le pire président des États-Unis, tout dépendant comment vous voulez, de quel côté vous êtes, là. Donc, c'est ça. Si on s'en vient...
pour moi, c'est le meilleur, pour être franc, là.
Ça m'étonne pas, Antoine, de toi.
Ça. Écoute, en tant que woke et en tant que personne de la gauche...
Ben, d'ailleurs, tu vas être content de savoir que 2008, c'est aussi... en fait, c'était une grosse année d'élections. Élections américaines, élections provinciales au Québec et élections fédérales au Canada. Fait quand même toute une année. Et c'était le premier député de Québec solidaire qui était élu, Amir Kadir, docteur Amir Kadir, qui reste à ce jour, en fait, l'un des grands politiciens qu'on aura eu... qu'on aura eu au Québec, qui est encore...
En fait, il a repris sa profession.
Ouais, chroniqueur à Cube Radio, c'est ça sa vraie profession?
Non, il est microbiologiste.
Ah, ok, c'est bon. Moi, je l'entends surtout comme spin doctor durant la campagne qui vient de passer. Il était pas mal là sur les différentes chroniques, mais quand même un type vraiment intelligent. Je me rappelais pas d'ailleurs que c'était le premier de Québec solidaire à avoir été...
Oui, il était tout seul au Parlement même durant ce mandat-là, donc il essayait de parler très fort et souvent pour essayer de faire sa place, parce que on se cachera pas qu'il n'y avait pas vraiment d'impact sur les choix gouvernementaux parce qu'il était tout seul de son parti. Mais il a vraiment laissé sa trace très fort. Là.
Ouais, ensuite, il y a eu Françoise David, entre autres.
Là. Manon Massé.
Ben, d'ailleurs, maintenant, on parle de Québec solidaire, c'est plus le parti que c'était. T'sais, justement, ça fait 14 ans, mais c'est quand même un parti qui s'est beaucoup développé dans les dernières années. Et maintenant qui est peut-être l'opposition officielle, bref, ça c'est difficile à dire.
Ils sont au pouvoir.
Mais sinon, en fait, à ces élections continue le règne du parti libéral. C'est Jean Charest qui est toujours en place.
Ouais, ben c'est sûr, il avait décidé de déclencher les élections, je pense, après une année de mandat seulement. Si je me souviens bien, il y avait eu des élections en 2006 ou 2007, puis il a décidé de déclencher ça rapidement parce qu'il savait qu'il allait avoir une... Bon, c'est le début de la crise économique, on va en parler tantôt. Puis il disait que s'il se faisait élire, ça serait avant de gérer la crise, parce qu'après, il n'y avait aucune chance de se faire réélire.
Ben ouais, il l'a bien fait.
Oui.
Et d'ailleurs, ben au fédéral, c'est Stephen Harper qui a été élu, le Parti conservateur. Alors que ça a quand même été aussi un autre. C'était toute une époque hein, pour être au Québec et au Canada, mais
ah oui,
au Québec en particulier.
On t'a gâté, Jean Charest puis Stephen Harper. Quoi.
Ouais, c'est ça. C'est comme Darth Vader et l'empereur en même temps. Là, fait que oui, c'est ça. Et ben tu l'as dit, Antoine, 2008, c'est aussi l'année donc qui a eu une des plus grandes crises économiques là, du millénaire, mais on était en 2008 là. Mais c'était une des très grosses crises économiques qu'il y a eu dans les dernières décennies. Ouais.
Mais il y en avait une au début des années 80 qui a eu une grosse crise aussi là, des taux d'intérêt qui ont monté à des 18% là, à ce moment-là. Mais oui, depuis le début des années 80, c'était vraiment le plus grosse crise économique, là.
C'est ça. Puis on se rappellera en gros qu'aux États-Unis, principalement, on appelait ça la crise de l'immobilier, en fait, parce que c'est vraiment, bon, c'était crédit sur des maisons et les gens n'étaient plus capables de payer, leur hypothèque. Ça fait que d'ailleurs, hein, il y avait des condos à vendre en Floride pour une petite poignée d'argent, ça valait pratiquement plus rien.
Ben, ce qui est arrivé, en fait, c'est que les banques qui prêtaient l'argent ont récupéré les maisons parce que les personnes n'étaient plus capables de payer, donc ils ont récupéré tout ça, sauf que en ayant 300 millions de maisons à vendre, là, j'exagère un peu, mais je veux dire, la valeur des maisons a chuté parce que les banques qui ont beau vouloir être propriétaires des maisons, ils peuvent
pas
les vendre.
Gens pour les acheter. Là.
Exact, c'est ça le gros problème. Fait que les maisons se vendaient à des prix ridicules. Il y a des maisons qui se sont jamais vendues, qui sont laissées à l'abandon. Je me souviens d'avoir vu des belles photos de la ville de Détroit, entre autres, que t'as des quartiers presque complets qui sont laissés à l'abandon.
Détroit, c'est une ville qui aura été à jamais scarifiée par cette crise. En fait, peut-être pour le mieux à un certain point. C'est quand même, il y a des choses très intéressantes qui se font à Détroit maintenant. Là, on pourra un jour.
Faut pas oublier aussi qu'il y a une banque énorme, donc qui était la quatrième plus grosse banque aux États-Unis, qui a déclaré faillite. Donc on se cachera pas que c'est quelque chose d'énorme.
Effectivement, je pense qu'il y avait une dizaine de milliers d'employés là, qui ont été licenciés immédiatement, fait que ça l'a entraîné plusieurs choses. D'ailleurs, dans le prochain épisode 2011, on va voir un peu si on veut là, la suite logique de tout ce mouvement-là. Donc, je pense que c'est quand même intéressant. D'ailleurs, Antoine, dans les petites notes, t'avais mentionné que s'en est suivi une baisse irréelle des taux d'intérêt, en fait.
Oui, les taux d'intérêt, moi je le sais parce que j'ai acheté ma maison en 2008, alors que les taux il allait baisser, mais je le savais pas.
Il était normaux, là.
Il était normaux, il était autour de 5%, et ça l'a chuté deux mois après, là, autour de 2%, là, ça avait aucun sens. Ma première année, je payais 0,75% d'intérêt, ce qui était complètement ridicule. Et ça l'a remonté juste en début de 2022, donc quand il y a eu l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ça a pris ça, ça a pris un événement majeur de comme ça pour que ça remonte. C'est sûr que ça aurait remonté quand même un peu à cause du retour de la pandémie, mais l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ça l'a vraiment précipité ça. Si ça l'a vraiment précipité ça.
Ah oui, moi en plus, je viens de renouveler juste avant que ça monte. Normalement, moi, je dis à ma blonde, ah, taux variable, ce serait une bonne idée, là. C'est, elle a peur du risque. Mais elle, c'est tout le temps sur le taux fixe. Là, on a pris un taux fixe. Jamais été aussi content d'écouter ma blonde, disons.
Ah oui, ça, c'est les gens qui ont un taux fixe en ce moment, ils sont quand même contents parce qu'on le sent vite. Ouais. D'ailleurs, en une année, ça a augmenté vraiment rapidement, là.
Parle-moi-en pas. Moi, j'étais variable, puis il faut que je renouvelle en 2023, donc j'ai peur un peu.
Bon, bonne chance. On va prier pour Antoine. D'ailleurs, il y a...
On va prendre un petit montant des Patreons, s'il vous plaît. Aidez Antoine.
Oui, les Patreons, ouais, c'était la dose. Peut-être juste vite, il y a un film qui explique un peu cette crise-là qui s'appelle The Big Short, que je trouve vraiment excellent comme film. Je vous recommande de le regarder si ça vous intéresse, cette crise de l'immobilier en 2008. Là, c'est quand même assez intéressant. Passons maintenant au domaine des sports. C'est quelque chose qui nous intéresse toujours. On n'a pas qui a gagné la Coupe Stanley cette année-là. C'était probablement pas le Canadien.
C'était Détroit, je peux te le dire.
Détroit, bon, ok. Nice. J'ai toujours bien aimé les Red Wings. Moi.
C'était contre qui déjà?
Contre les Pingouins. Et Sidney Crosby.
Ah ouais, dommage. Mais
c'était-tu la deuxième fois que c'était exposé en finale, ça?
Non, c'est la première.
C'était surtout les Olympiques de Beijing, alors en 2008, dans les très gros Olympiques qu'on a reconnus à cette époque, les Olympiques d'été. Et ça, moi, les Olympiques, peu importe ce qu'on en dit, je suis un fan fini des Olympiques, là. Je prends des congés au travail, j'ai 3-4 écrans en même temps, je regarde tout ce qu'on peut regarder sur les Olympiques. J'adore ça. D'ailleurs, en 2008, je crois que j'avais pris un VPN pour regarder sur le site de la BBC, parce que la BBC avait un site vraiment bien fait pour regarder les Olympiques, où tu pouvais justement avoir plusieurs écrans ouverts en même temps. Bref, c'était une année assez incroyable. Je vais te laisser, Antoine, parler de
ben, il y a deux athlètes qui se sont démarqués en particulier. Il y a un certain Usain Bolt.
Qui est ça?
Connais pas.
Inconnu.
Ah, il était âgé seulement de 22 ans, on s'entend. Et il devient le premier à remporter le 100 mètres et le 200 mètres, donc les médailles d'or dans les deux catégories. Depuis 1984, c'était Carl Lewis à l'époque. Cette année-là, il a même battu les records. Là, je pense pas que ce soit nécessairement aux Olympiques, mais durant l'année de 2008, il a battu les records du 100 mètres, du 200 mètres et du relais 4x100 mètres avec l'équipe de la Jamaïque. Donc, à 22 ans...
Ouais, sans trop forcer en plus.
Ouais, probablement. Alors, on s'entend que...
Ouais, il a arrêté de courir à la fin, il regardait son voisin de droite.
À 22 ans, c'est très impressionnant. Là, il a rebattu son record 2, 3, 4 fois probablement depuis. Là. Donc, tout un athlète qui va avoir marqué son époque, en fait, dans la discipline du 100 mètres. Et on a aussi Michael Phelps. Donc, Michael Phelps, qui est un nageur incroyable, qui nage dans à peu près tous les styles de nage, toutes les distances possibles. Donc, remporte 8 médailles d'or. 8 médailles d'or. Je le répète au ralenti, bam. Là. C'est quand même impressionnant. Je pense qu'il dans sa carrière, il y a au-dessus de 20 médailles olympiques.
Ouais, j'avais vu un reportage, en fait. Le gars, Michael Phelps, était tellement fait pour la natation. Il y avait un torse qui était aérodynamique. C'était fou. Il y avait les mains tellement grosses. C'était quasiment comme des nageoires. Il y avait même j'avais vu les orteils un peu palmés.
Ah là, il triche, là.
Ah, finalement, c'est un mutant.
Il était juste fou, tu sais. Il battait tout le monde par une grosse distance. Il a battu plein de records, en plus. Durant ces Olympiques-là.
Ah non, mais c'était incroyable parce que, comme je vous dis, je capotais sur les Olympiques et c'était en Chine, fait qu'on avait un décalage horaire assez important. On se rencontrait chez des amis qui habitaient coin de du métro Vio. On se rencontrait là et chaque soir, Michael Phelps remportait une médaille olympique. Bang, bang, bang. À chaque fois, j'arrivais le soir, on regardait ça, il remportait une médaille olympique, il se qualifiait pour la finale du lendemain. Il remportait une médaille olympique, il se qualifiait pour la finale du lendemain. C'était c'était incroyable, en fait.
Tu sais, j'en ai joué avec des amis, là, tu sais, dernièrement, Serena Williams a annoncé sa retraite, puis on se demandait, est-ce qu'elle fait partie des top 10, justement, des plus grands athlètes de l'histoire? Et je vous dirais que, justement, cette année-là, est né deux athlètes, Usain Bolt puis Michael Phelps, justement, que je trouve que c'était un consensus unanime, justement, autour de mes amis, qu'ils font partie du top 10, justement, des meilleurs athlètes de tous les temps. En tout cas, c'est clairement les meilleurs de leur profession.
Ah, mais là, t'ouvres la porte, Steve, à quelque chose d'intéressant. Je veux pas qu'on dévie trop là-dessus, mais moi, une des choses que j'aime le plus faire, c'est des top 10. Et je pensais peut-être étendre éventuellement là baladoulidique à une saison en alternative où on ferait des top 10 sur
on aime ça, les top
des
10.
Choses un peu en parallèle, tu sais, donc ça pourrait être intéressant peut-être éventuellement de faire ça. Là je vois qu'on est rendu vraiment deep dans l'année 2008, fait qu'on va continuer. Antoine, est-ce que tu veux parler?
Oui, je veux parler de la musique. Je sais que tu voulais pas en parler parce que c'était moi qui avais ajouté l'information, mais en musique, on va assister à quelque chose de quand même surprenant au Québec. Les cinq premières chansons du top 100 radiophonique, on s'entendra, sont occupées par des femmes. Donc, mm-hmm. On parle de deux chansons de Lady Gaga.
On va censurer ça.
On parle d'une chanson de Katy Perry, on a Mary May et on a Madonna. Donc, les cinq premières chansons sont faites par des femmes. D'ailleurs, Lady Gaga a sorti son premier album cette année-là, en 2008, qui a été un succès planétaire incroyable. Donc, les deux premières chansons du top 100, c'est deux chansons de Lady Gaga. Donc, ça veut tout dire.
Poker Face.
Entre autres, on a Katy Perry, en fait, qui a créé même une polémique chez les puritains aux États-Unis, avec sa chanson I Kissed a Girl. Là, c'est peut-être qu'il y en a que ça leur dit rien, mais I Kissed a Girl, and I Liked It. C'était la phrase principale de la chanson. Les puritains aux États-Unis n'aimaient pas ça parce que ça avait une connotation évidemment homosexuelle ou lesbienne. Donc elle s'est fait beaucoup d'alliés dans la communauté LGBTQ, mais elle s'est fait beaucoup d'ennemis chez les ultra-religieux, on va se le dire. On a Mary May qui est aussi en train de dans une grosse montée, là, elle commence à être reconnue comme une superstar au Québec, donc c'est vraiment la montée des femmes. On commence à assister en fait à un début de révolution chez les chanteuses féminines, qui sont de plus en plus présentes, mais qui démontrent surtout une influence de plus en plus forte chez les jeunes adolescentes, utilisant leur podium pour lancer des messages de female empowerment. Donc ça vous dit quelque chose. Ces jeunes ados-là ont aujourd'hui entre 25 et 30 ans. Donc, c'est un peu celles qui sont au centre des mouvements MeToo et des changements sociaux qui s'opèrent depuis quelques années. Donc ça, c'est mon analyse, mais c'est quelque chose qui est très logique dans un sens, parce qu'on regarde vraiment tous les changements sociaux qui s'opèrent, donc avec le mouvement MeToo, les LGBTQ+, et tout. On voit que ces personnes-là, cette génération-là, a eu une certaine influence externe. Puis on se cachera pas que les artistes influencent beaucoup les adolescents, sans nécessairement qu'ils le sachent. Donc c'était pour moi quelque chose d'incontournable pour ces années-là.
Ouais, ben faut puis les gens ont peut-être pensé que je suis pas sérieux, mais moi Lady Gaga et Mary May font partie de mes écoutes quand même. Régulière et deux artistes que j'apprécie beaucoup, là, même si ça a l'air un peu...
Marie-Mé, moi j'ai deux petites filles, et Marie-Mé, je dois dire que ça peut être une excellente influence pour les jeunes filles, parce qu'elle a justement des bons messages positifs, puissants pour les jeunes filles, donc effectivement, c'est vraiment une bonne influence.
Moi, j'aime sa musique.
Donc, Marie-Mé a beaucoup aidé, je pense, au mouvement MeToo. Elle était très impliquée dans la communauté.
Peut-être moins aujourd'hui. Là, on a une autre qui s'appelle Roxane Bruno, là, qui est en train de monter en puissance aussi, qui est très, très forte chez la communauté LGBT. Mais d'après moi, elle va remplacer Marie-Mé d'ici quelques années. Là.
OK, ben allons maintenant du côté du cinéma. On n'a pas beaucoup de... Même que je regarde un peu nos affaires, c'est un peu maigre, là, mais j'irai au moins avec... c'est fou comment quand un acteur meurt, ses rôles et son talent gagnent en puissance. Mais je parle bien entendu de Heath Ledger qui sortait, ben en fait le film était même pas sorti. Dark Knight, il jouait le Joker, pour lequel d'ailleurs il aura gagné un Oscar posthume, qui est un rôle incroyable. En fait, le Joker reste un rôle assez incroyable en général dans la vie du cinéma, mais Heath Ledger l'aura réinventé, aura même volé la vedette à Batman, hein, faut le faire.
Pour moi, c'est pas le meilleur qui a fait le rôle de Joker dans l'histoire, mais...
Moi, Heath Ledger, c'était mon favori, vraiment.
Moi, je vais aller vraiment dehors de la traque, puis je vais dire que c'est Mark Hamill qui faisait la voix dans les dessins animés de Batman.
Ah, il est bon. Il est bon, Mark Hamill, mais c'est le Joker plus traditionnel, on va dire. T'sais, moi, ce que j'ai aimé d'Heath Ledger, c'est qu'il est allé à l'extérieur. Il aura redéfini le rôle du Joker. Est-ce que c'est le meilleur? Mais il y aura un point tournant avant et après Heath Ledger. Le Joker n'est plus le même. Son habit est beaucoup moins propre.
C'est quelqu'un de beaucoup plus sombre, beaucoup moins jovial et coloré et tout ça. Il est beaucoup plus dark. Donc, c'est effectivement, ouais. le personnage change complètement.
Ouais, moi, Heath Ledger, ça reste mon favori. Là. Il a même fait les fameux chandails comme Why So Serious, justement, cette petite partie du film là, qui était vraiment marquant dans le monde du cinéma.
Ouais, maintenant, vous pouvez acheter ce chandail au Walmart pour 5$. donc, ensuite, bon, rapidement, parce que là, je me rends compte, hey, on divague, là, et on va parler de 2008 tout le long, mais pas de jeu.
je veux parler de Tropic Thunder, au moins. Thunder qui est sorti.
Je suis un fan de Ben Stiller, à la vie, à la mort, un de mes favoris, acteur, réalisateur, tout le kit.
Moi, j'adore Jack Black aussi, juste parce que c'est un clown pis que j'adore. Mais le rôle qui est le plus important dans celui-là, c'est le rôle de Robert Downey Jr. où il joue en fait un Australien blanc qui se prend pour un noir, donc qui joue un noir dans un film, dans le film. Donc c'est vraiment un rôle de composition assez complexe. Et je suis pas certain qu'aujourd'hui ça serait encore toléré, ce genre de...
Ben, c'est limite, parce que ça joue tellement sur les... tu sais, c'est une satire de ça en même temps.
Oui, là, effectivement. Ça, en fait, ça dénonce les compagnies de cinéma qui vont embaucher des acteurs blancs pour jouer des rôles de noirs. Donc, c'est effectivement un peu une satire, mais...
Pour moi, Tropic Thunder, c'est un film qui a pas la reconnaissance qu'il devrait. D'ailleurs, le rôle de Tom Cruise dans ce film-là est... absolument incroyable. Ouais, Tropic Thunder, technologie, quand même, avant ça, vous aviez peut-être des BlackBerry, ou moi j'avais un Palm Pre, mais, oui, exactement, mais c'est, une année plus tôt et cette année-là, Android et iPhone qui font leur apparition, ces petits bidules qui sont maintenant dans les poches de tout le monde. Peut-être l'une des plus grosses révolutions des 50 dernières années, je sais pas exactement, mais c'est difficile, ouais, de se promener, disons, maintenant et de pas remarquer à quel point cet objet qui était si marginal et inconnu est maintenant la chose que tout le monde possède et tout le monde regarde de façon abusive. Fait que c'est quand même assez incroyable.
On parle de téléphones, mais en fait c'est pas des téléphones, c'est vraiment des micro-ordinateurs portatif qui se rend dans une poche et que tu peux aussi utiliser comme téléphone.
Ouais, en fait, j'ai ça quand le monde m'appelle là-dessus. Moi. La règle, c'est que si tu m'as pas texté avant de m'appeler, il y a des bonnes chances que je réponde pas, tu sais.
Je prends des notes. Oui.
C'est bon. C'est aussi le lancement de Spotify. Spotify, une autre plateforme un peu controversée. On parlait de musique tantôt. Spotify, même si maintenant c'est comme, bon, on va dire, c'est normalisé un peu plus, ça fait quand même pas si longtemps. Il y a encore beaucoup d'artistes qui sont qui se rebellent contre Spotify. Leur redistribution des revenus est assez discutable, mais ça reste que c'est ce qui a pas enrayé le piratage là, de musique, mais j'ai pas téléchargé une chanson depuis probablement 2010, en fait. Depuis que je me suis abonné à Spotify, là. Je n'ai pas téléchargé une seule chanson illégalement.
Moi, je m'ennuie de Napster pis de LimeWire, voyons.
Ben, en fait, avant ça, il y a eu iTunes qui est arrivé quand même, mais qui était la plateforme de...
ton dégât iPhone pis de
moi non plus, même, mais que... c'était quand même la plateforme des iPod.
Ouais, c'est ça. Je n'ai jamais acheté une chanson sur iTunes à 1$. OK, prochain point. Bon, Antoine et moi, on va pas se pogner parce qu'on a plus le temps. Là. On s'est déjà pogné avant l'épisode un peu. Mais c'est aussi Satoshi Nakamoto, le Bitcoin, le blockchain, a peer-to-peer economy, une vision. C'est bon, le lancement du Bitcoin et tout ce qui aura entraîné ça. Est-ce que c'est une bulle qui va éclater? Est-ce que c'est une révolution économique? Est-ce que c'est une révolution technologique? Est-ce qu'on attend juste l'ordinateur quantique pour que ça explose? Est-ce que c'est du hard cash, contrairement à ce qu'on peut retrouver à la bourse? Bref, je vais vous laisser faire votre propre opinion du Bitcoin, qu'on le veuille ou non. C'était et c'est encore quelque chose de majeur à notre époque.
Moi, ça m'a surpris. Je pensais vraiment que le Bitcoin, ça va finir par mourir.
Ben moi, ma prédiction, je l'ai dit tantôt à Simon, c'est que il va y avoir éventuellement une monnaie virtuelle mondiale, mais ça sera pas le Bitcoin.
Ah oui, mais ça, c'est correct.
Vous l'aurez entendu ici en premier.
C'est pas grave si c'est pas le Bitcoin. Moi, je suis pas genre un défenseur ultime du Bitcoin. Je défends l'idée, le concept et ce que ça peut entraîner derrière. Après, le Bitcoin en tant que tel a plein de problèmes. Même on s'entend des monnaies virtuelles maintenant, il y en a des milliers. Il y en a pour tous les
coups. Le Dogecoin.
Ouais, mais le Dogecoin, ça c'est 2018. Là. Maintenant, il y en a bien plus d'affaires fuckées que ça. Mais le blockchain aussi, qui est une technologie de validation de transactions qui... Dans les prochaines générations d'ordinateurs, la plupart d'informations qu'on va échanger va être communiquées par ce genre de technologie. Là.
On peut parler aussi de la montée en force de Facebook depuis 2006. Ça change énormément les relations sociales qui vont se faire de plus en plus en virtuel. C'est sûr qu'il y avait MySpace avant, mais MySpace était peut-être un peu moins ouvert, peut-être moins libre, mais on commence.
MySpace, c'était des pseudos, c'était pas facilement trouver les gens.
C'était des petites pages personnelles, ouais, c'est ça. Il y avait pas nécessairement d'espace public tant que ça. Donc on commence à un petit peu moins se parler déjà. On fait plus de textos, ça se passe de moins en moins en présence. Donc ça rappelle un peu les années 2020-2021. Mais on va de plus en plus en virtuel, même au niveau social. Ça, c'est quelque chose d'important que je vais ramener tantôt.
On est rendu maintenant au cœur du sujet. Les jeux de société, ou en tout cas en général, on va commencer par un triste événement. C'est la mort d'un homme qui est un grand maître d'échecs américain, mais aussi bien plus que ça. C'est un icône de la pop culture. Bien entendu, j'ai nommé Bobby Fischer. Dans un épisode d'ailleurs antérieur de Balado Ludique où on parlait des dangers des échecs, on a beaucoup parlé de Bobby Fischer. Les documentaires pullulent sur lui, il y a des émissions de télé, il y a plein de choses. D'ailleurs, c'est quoi son nom? Tobey Maguire fait une très bonne incarnation de Bobby Fischer dans un film. Bref, c'est l'année de son décès. Il n'aura pas joué une partie d'échecs depuis 25 ans, je pense, à ce moment-là.
Ouais, en 92, sa dernière, puis avant 92, ça remontait à 1972.
Ah, c'est ça. Okay.
C'était les deux séries contre Boris Spassky.
Et le moment où il était en Russie et où il a fait un... Est-ce qu'il a fait un nervous breakdown ou... pas vraiment, on saura jamais vraiment qu'est-ce qui s'est passé, mais on peut dire qu'il est peut-être devenu fou à ce moment-là.
Moi, j'ai pour mon dire que la Queen's Gambit, c'était la meilleure.
C'est aussi un autre triste décès, celui de Monsieur Gygax, co-créateur de Donjons Dragons. Dans la saison 10 de Balado Ludique, on a aussi beaucoup parlé de cet homme-là avec Pierre Gary Gygax, qui était un des créateurs de Donjons Dragons.
C'est un des hommes les plus influents, en fait, dans le jeu, si je mets le jeu at large, là. Parce qu'on s'entend que Donjons Dragons, ça l'a influencé les jeux de société, les jeux de rôle, les jeux vidéo, ça l'a vraiment changé complètement la face du jeu, là.
Sinon, le Spiel cette année-là, Keltis, Oui, le Spiel le plus méconnu, celui que personne n'a joué, qui est maintenant noté dans, même pas dans le top 2000 sur BGG.
C'était la version jeu de table de Lost City, si je me souviens bien.
Ouais, mais c'est quand même l'année où Lost City de Board Game... En fait, je pense aux États-Unis, c'était Lost City de Board Game, ça se peut-tu? Puisque c'est la même année où Lost City de Board Game est sorti. Fait que je pense qu'il est sorti sous deux noms différents.
Oh,
il me semble que c'était ça que j'avais cru comprendre. Oui, exact, c'est ça. Aux États-Unis, Lost City de Board Game et ailleurs dans le monde, Keltis. Autant Lost City est un bon jeu, celui-là, ce n'est pas le plus connu des Spiels, mais c'était quand même le docteur Kenidia qui était, encore une fois, à son apogée, et il l'est encore d'ailleurs. Hein,
je préfère nettement Lost Cities, le jeu de cartes, personnellement.
Oui, je pense pas que tu vas trouver beaucoup d'opposition pour ce débat-là, Antoine, non. Malheureusement. Il va falloir qu'on s'assigne des rôles au début pour savoir qui va débattre la position, puis on va tirer ça à la courte paille. Dernière nouvelle, Cranium acheté par Hasbro à 777 millions de dollars. La franchise Ouch. Cranium. Pour ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'argent à faire avec les jeux, si Hasbro claque près de 100 millions de dollars pour ça, c'est qu'il y en avait quand même.
Ouais, ils ont acheté la franchise au complet, donc il y a eu quand même plusieurs remakes de Cranium.
La série télé, tout le kit, là.
C'est un peu une franchise à la Trivial Pursuit, dans le sens que il y a beaucoup de spin-off, il y a beaucoup de projets.
Ouais, puis même des jeux qui ont même pas rapport, là, puis des choses que c'est même
ils
pas.
Ils font juste mettre le nom dessus, puis c'est tout, là.
La marque, exact. On peut se lancer, je crois, 2008, l'année du Gateway Game.
Oui, effectivement. Avec la crise économique qu'on a mentionné tantôt, donc. On va chercher de plus en plus à publier des jeux de style gateway pour avoir un public plus large, donc rentabiliser les investissements au niveau des publications. Si avant le jeu de société est un peu un hobby de niche, on va essayer d'élargir ça et d'aller chercher une nouvelle des nouveaux joueurs chez les personnes qui normalement ne jouaient pas à des jeux. Et c'est aussi...
2008, là, moi, je commençais à jouer à des jeux. Ça faisait 2 ans à peu près là, que je jouais à des jeux.
Oui. Et en fait, c'est l'arrivée en force même des jeux coopératifs. C'était pas les premiers, donc il y en a qui sont sortis avant. Donc, on pense peut-être à celui de Rainer Kenedia, Seigneur des Anneaux. Mais c'est vraiment là qu'on va avoir...
Camelot, Shadow of Camelot.
Shadows over Camelot, oui, qui est en plus de ça, qui a un traître en plus, là.
Excuse-moi, mais... je veux pas gâcher ton segway, Antoine. Je me rends compte que j'ai mis une note qui est comme pas à bonne place dans le truc. Fait que là.
Vas-y.
C'est que 2008, on va parler de jeux de 2008, puis vous allez voir, c'est une année incroyable. Mais c'est une année incroyable qui tient dans la paume de la main. Parce que, au-delà des jeux qu'on va parler, il y a quelques pépites, mais ça reste que c'est une année relativement sec malgré tout. Donc, il y a des gros jeux, des trucs forts, mais pas il y en a pas 50, là. Il y en a probablement pas 20. Donc c'était quand même à noter parce qu'on dit 2008, année incroyable, on va voir tous les jeux tantôt. Mais à part ceux qu'on va parler aujourd'hui, là, vous allez voir que ça ratisse pas très large.
Ouais, mais disons qu'ils étaient vraiment solides les meilleurs.
C'est ça, sont dominants. Oh, ouais.
Il y en a 10-12 là, mais c'est 10-12 très puissants, effectivement. Donc, je parlais des jeux de coopératifs, puis là, je vais faire mon segue. En parlant du premier jeu, donc, qui est le jeu Pandémie. Donc là, ça fait 2 ans qu'on parle de Pandémie.
Ben oui, j'essaie de vous dire, oh, pas encore Pandémie. 9, ça?
Non. En fait, Pandémie, c'est le premier gros succès original de Z-Man Games et de l'auteur Matt Leacock. Il a été en nomination au Spiel en 2009. Donc, il est sorti en 2008, donc nomination 2009. Mais, étrangement, il a même pas gagné. Il y en a qui seraient peut-être surpris. Il a perdu aux mains d'un autre jeu qu'on va parler plus tard. L'histoire de Pandémie...
Keltis 2.
Non, c'était pas Keltis, en fait. Keltis a gagné en 2008, mais il était paru en 2007, si je me souviens. Non, il était paru début 2008, effectivement. Donc, l'histoire de Pandémie, ça remonte à l'enfance de Leacock. Les idées et les expériences qui ont influencé sa forme finale vont s'accroître progressivement au fil du temps. Comme beaucoup d'entre nous, bon, ils recevaient des jeux de société comme cadeau de fête ou de cadeau de Noël, là, comme nous autres quand on était tout petits. Mais souvent, ils étaient déçus par les produits qu'ils recevaient, qui étaient à base de plastique, des rouleaux, des mouvements, des patentes, des bidules. Ça constituait l'essentiel du marché des jeux familiaux dans les années 80. Donc, c'était des jeux jouets un peu. Alors, ce qu'il faisait, avec son oncle, il redessinait des jeux auxquels il voulait lui jouer. Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait le plateau et il virait le plateau de bord pour essayer de concevoir un nouveau jeu, meilleur, mais avec le même matériel qu'il y avait dans la boîte.
Ah, ça c'est beau, les Game Jam.
Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne YouTube de Dragon's Tomb, vous irez regarder ça. C'est quelqu'un qui fait la même chose, mais d'une façon totalement humoristique et déjantée, qui est très drôle. Un des premiers jeux qu'il a créé dans son enfance, tout seul, donc sans l'aide de son oncle cette fois-ci, avait une thématique de fission nucléaire. Donc les joueurs avaient le rôle de particules subatomiques, donc les joueurs jouaient les particules, à l'intérieur d'un réacteur. Et ils essayaient de frapper les autres particules contre les parois du réacteur pour qu'ils se divisent, donc d'où le terme de fission nucléaire, et finalement essayer de submerger les adversaires. Donc, ils voulaient avoir plus de particules que leurs adversaires. C'est d'ailleurs de cette mécanique-là qu'est né le système de propagation des virus de pandémie 20 ans plus tard.
C'est la base du jeu,
hein? Ouais, qui est vraiment la base du jeu de pandémie. Donc, ça, 20 ans plus tard, on s'entend. Une autre influence majeure a été...
Les idées que vous avez maintenant, là, ils vont peut-être être bonnes plus tard. Là.
Oui, c'est ça. Petit message aux auteurs, c'est pas parce que le jeu sur lequel tu travailles, c'est pas bon, qu'il y a pas des bonnes idées dedans.
OK, Steve. C'est noté.
Hey, toutes mes idées sont excellentes, tu seras.
C'est bon.
Une autre influence majeure, ça a été le jeu coopératif du Seigneur des Anneaux du Dr. Kennedy. Donc, les gars qui étaient fascinés par le drame puis l'engagement créé par les jeux coopératifs. Ce sont ces deux idées principales qui ont formé la mécanique centrale de Pandémie. Donc, la coopération et le système de propagation. La thématique, ça lui est apparu naturellement, étrangement, parce qu'en 2003, le monde a connu une épidémie, entre guillemets.
Le SRAS, hein, je pense.
Ouais, le SRAS. Le fameux SRAS. Donc, c'est pour ça que je dis épidémie, entre guillemets, parce que il y avait menace d'épidémie, mais finalement, ça s'est jamais concrétisé. Le virus est tombé un peu.
Le moment où on aurait dû se dire, OK, ça nous prend un plan d'intervention clair quand il va en avoir une vraie, là,
t'sais. Oui, mais on c'était comme, bof, c'est de la chenoute, finalement.
De toute façon, c'est pas arrivé.
en gros, le SRAS a muté et est devenu presque anodin rapidement. Aujourd'hui, la thématique peut nous faire un peu déchanter à cause des deux dernières années qu'on a vécues, là. Mais faut pas oublier que les joueurs essayaient d'éradiquer les virus et non pas l'inverse. Donc le jeu, selon les coqs, aurait absolument pas eu le même succès si ça avait été l'inverse. Donc un jeu de mobile là, qui fait carrément l'inverse, qui a été d'ailleurs transposé en jeu de société aussi.
C'est incroyable, Inc. Par exemple, de sur téléphone, c'est très bon, ce jeu-là.
Oui, c'est ça, mais tu sais, c'est vraiment plus abstrait aussi, donc tu vois juste la carte qui se...
T'entends du monde qui tousse, par exemple, puis qui meurt.
Moi, je vois pas de son, fait que je l'entendais pas. Okay, ça m'écoeurait. mais Matt Leacock voulait que les joueurs se sentent comme des héros. Il voulait pas que ça soit comme des méchants. D'ailleurs, la première mouture de l'illustration de la boîte avait beaucoup de panique, donc le monde courait à gauche et à droite, il y avait même des corps en feu sur sa boîte. Quand il s'est fait présenter ça, il était comme c'est pas ça que je veux. Il voulait pas créer cette émotion-là, puis l'image aurait pu laisser d'autres scénarios dans la tête des consommateurs, et il l'aurait interprété vraiment différemment. Quand tu vois un cover de boîte comme ça, tu penses pas nécessairement que tu vas jouer les héros. Tu vois du monde en feu, tu te dis, ah, ben, faut faire brûler du monde, c'est... Fait que, lui, c'est pas ça qu'il voulait mettre comme image. Donc, il a vraiment, il voulait avoir l'image d'une équipe triomphante. Donc, comme de un peu de super-héros. Et c'est ce qu'on voit sur la boîte, donc, officielle.
Surtout la nouvelle édition, là.
Non, pas la nouvelle, mais la première édition, en fait, c'est ce qu'on voit. On voit vraiment, là, l'équipe de spécialistes un peu posé en super-héros, là. Donc, c'est, il voulait pas démontrer le côté laid ou horrible d'une pandémie. Quand Lee Cook a approché les éditeurs avec son jeu, il s'est fait dire, en fait, qu'il pouvait pas sortir un jeu avec ce nom-là, que ça allait faire déchanter les clients, que ça fait, ah, oh, c'est pas une thématique intéressante, tout ça. Donc, il l'avait temporairement renommé Global Outbreak. C'est comme ça qu'il l'a présenté aux éditeurs. Et quand il est arrivé pour le proposer à monsieur Zev Schlesinger, donc le fondateur de Z-Man Games, il lui a demandé tout bonnement comment vous voulez qu'on appelle le jeu. Et lui, s'est posé la question, puis finalement il a dit ben pandémie. Fait qu'il a dit OK, c'est de même qu'on va l'appeler. Donc même Zev lui s'est pas posé la question, non, on y va avec ça. Pas de trouble, même si tous les autres éditeurs avant ils avaient dit non à ce nom-là. Donc on voyait un peu la vision là, de Zev, qui a quand même une superbe importance là, dans le domaine du jeu. Z-Man qui a été racheté après ça par Philosophia dans les années 2010. Zev, je pense qu'il joue, il travaille encore dans le milieu, mais n'est plus à la tête de sa compagnie. Malgré que ce soit le premier jeu coopératif, ça reste celui qui a mené le bal, là. Donc celui qui a mis vraiment de l'avant le style coopératif. Il y avait eu quelques autres jeux avant, donc on a mentionné le jeu de Seigneur des Anneaux, on a mentionné aussi Shadows Over Camelot, mais c'était des jeux qui avaient des thématiques vraiment fantasy. Donc la grosse différence, c'est que celui-là avait une thématique contemporaine, réaliste. Donc les gens qui ne tripaient pas trop sur les thématiques fantasy se retrouvaient un peu plus dans cette thématique-là. Ce qui a probablement aidé à sa popularité d'ailleurs, parce qu'il se détachait.
Tu disais tantôt, c'était pas du sci-fi, c'était pas du médiéval fantastique. L'époque des Gateway Games, c'était comme parfait, là.
On rentre dans le concret. Exact. La thématique était moins nichée parce que même si le fantasy, ça reste une des thématiques les plus populaires, ça a fait reculer beaucoup de gens encore. Donc, il y en a qui, quand t'aimes pas le fantasy, tu viens de te couper quasiment 40% des jeux sur le marché, là. C'est peut-être plus vrai aujourd'hui, mais il y en avait à l'époque, c'était beaucoup de ça. Parce que le fantasy avait la connotation Donjon Dragon rattachée. Donc c'est ça. C'était un peu plus geek, un peu plus nerd.
Ouais, puis là, ben tu sais, pandémie après ça, inutile de dire à quel point ça a eu de l'impact sur la suite. Là. Je veux dire, ce jeu-là, c'est une des franchises de jeux les plus prolifiques, les plus mieux traitées de l'industrie aussi, là, qui continue d'évoluer puis de se propager. Oh.
Puis en fait, au niveau des jeux coopératifs, c'est pas juste les jeux coopératifs en fait qui ont été influencés, mais même les jeux compétitifs ont été influencés par le mouvement coopératif. Les jeux compétitifs sont rendus, en fait, à partir de ce moment-là, on commençait à avoir moins d'interactions directes, moins de confrontations, tu pouvais plus nécessairement attaquer. Donc, évidemment, sauf les jeux de guerre et de confrontation, mais les jeux euro avaient souvent des mécaniques, donc d'interactions directes, et de plus en plus, on voyait que les autres jeux délaissaient ces petites mécaniques-là pour laisser place un peu plus à de l'interaction indirecte. Donc, c'est-à-dire, on va courir les mêmes objectifs. Il va y avoir une course pour aller chercher des objets. Donc, on veut avoir les mêmes affaires dans le jeu, mais il y a juste le premier arrivé qui va l'avoir. Donc, c'est de l'interaction indirecte. Puis là, c'est quelque chose de très drôle, en fait. Plus de 400 ans avant Jésus-Christ, on parle d'Hérodote. Hérodote a rapporté qu'il avait compris que le peuple de la Lydie, donc qui est un petit peuple là dans le bout de la Grèce et de la Turquie, avait inventé des jeux de dés, d'osselets et d'autres sortes de jeux pour les aider à passer à travers une grande famine. Les gens jouaient pour éviter de se rappeler qu'ils avaient faim. Une journée, ils jouaient toute la journée. La suivante, il avait droit à un repas, donc il mangeait une journée sur deux. Puis l'autre journée, il jouait. Donc, ils oubliaient un peu leurs problèmes. Et il aurait réussi à survivre de cette façon-là, toujours selon Hérodote, pendant 18 ans. Donc, si vous avez pas d'argent pour manger, ben, jouez à des jeux.
Ben là, au prix des jeux maintenant, c'est peut-être moins c'est... moins approprié comme conseil, mais créez-en vous-même, c'est bon?
Aussi. En fait, le monde ayant besoin d'espoir, cette capacité qu'ont les jeux à nous plonger dans un autre univers ont probablement remis le jeu Pandémie à l'avant-plan en 2020, d'ailleurs, à cause de la pandémie. C'est drôle parce que dans les premiers mois de la COVID, donc mars, avril, mai là, l'année dernière, le nombre d'articles que vous pouvez trouver sur Internet qui parlent du jeu Pandémie est incroyable. Essayez de trouver un article qui date d'avant 2020, vous allez avoir de la misère. Et il y a même eu un gros boom des ventes de Pandémie et des jeux de société en général, mais Pandémie, ça a été vraiment marqué. Donc les gens voulaient un peu vaincre cette pandémie-là par eux-mêmes
en jouant au jeu.
Donc ça l'a aidé un peu à passer à travers les premiers mois, là, parce qu'après 2 ans, là, tu joues au même jeu, je pense que tu finis par te taire. Donc c'était un peu l'histoire de Pandémie, mais comme t'as dit Simon, il y a eu quoi, 12-15 versions de Pandémie, il y a eu trois saisons Legacy, on parle d'un jeu de dés, au moins un jeu de cartes,
il y a eu beaucoup de travail, même dans le temps où Philosophia existait, il y avait, et même un peu après, il y avait beaucoup de travail pour organiser des genres de tournois de Pandémie, des activités spéciales. Il était dans les conventions avec un mode de jeu survival Pandémie, puis tu jouais en équipe de 2 contre plein d'autres équipes, puis il y avait quelque chose de vraiment, c'était une communauté active et il s'occupait du jeu, en fait, il s'occupait de la franchise, là.
Oui, effectivement, il y avait des championnats mondiaux de Pandémie à cette époque.
Ça, j'avais bien aimé, j'avais participé 2-3 fois à ces activités-là.
Le principe, si je me souviens bien, c'est que tout le monde partait avec le même plateau, les cartes dans le même ordre, et
ouais,
tout était identique.
En fait, exact. Puis là, t'es séparé par des paravents, c'était en équipe de 2, t'avais 3 personnages, je pense. Puis c'était les cartes étaient toutes prédéfinies, là, fait que tout le monde jouait la même partie de Pandémie, là.
Ouais, c'est un principe intéressant, surtout dans un jeu coopératif, ce qui est quand même...
Il l'avait bien trouvé. Là, les gars, je veux pas trop vous inquiéter, mais il va falloir peut-être peser un peu sur la pédale d'accélération, même si c'est très intéressant tout ça.
Le prochain titre va être rapide à nous.
Parfait, fait que on y va. On pourrait parler de Pandémie vraiment pendant une heure encore, là, fait que on a même pas encore commencé à parler du coronavirus. Fait que.
Donc le prochain titre, c'est un jeu où est-ce qu'il a popularisé une nouvelle mécanique. C'est pas lui qui l'a lancé, c'est comme le deuxième titre qui a lancé cette mécanique-là. Il a gagné l'As d'or en 2009, l'année suivante, dans le fond, les Spiels de Jarès qui a volé justement le titre à Pandémie. C'est la mécanique que je parle, c'est le deck building avec le fameux jeu Dominion. Le deck building qu'on peut mettre en français avec, dans le fond, la construction de paquets ou en fait la construction de l'eau, qu'on pourrait dire, Simon?
Construction de potentiel. Gestion de potentiel.
Ben c'est de la fabrication de sacs. La fabrication de sacs. Mais bon...
Ouais, c'est le problème que c'est que ça se brasse assez mal les cartes dans un sac, hein. Disons. Donc, tu sais, il y a tout le, tu sais, vous avez eu une discussion justement dans les jeux les plus influents, là, vous avez parlé justement du fameux terme. J'aimais l'aspect que Pierre a parlé de gestion, puisqu'on va c'est du hasard, le deck building que ça crée, mais on va gérer ce hasard-là justement en éliminant des cartes de ce deck-là. Donc on va plus concentrer notre stratégie vers certaines choses. Donc c'est là que la gestion de potentiel, si on peut dire, vient à l'idée avec Pierre.
Fabrication de sac, tu le gardes pas celui-là?
Non, celui-là garde pas ton expression de sac. Mais sinon, Dominion a tiré quand même 53 extensions et promos, donc c'est une grosse vache à lait pour Rio Grande Games.
Extension par-dessus extension.
Ouais, il y a des extensions, là, ça finit vraiment plus parce que au final, justement, tu sais, si on enlève les deuxièmes éditions, des choses comme ça, j'étais arrivé avec un décompte de 14 extensions quand même pour Dominion.
Juste 14.
Ouais, c'est ça, juste 14. Dominion a souvent aussi, on peut voir dans l'imaginaire que ça a souvent été le premier jeu pour certaines personnes. C'est dans le fond un jeu qui est assez d'introduction puisque les mécaniques sont simples, l'iconographie est claire. Mais ça va, on va souvent parler, comment t'as commencé le board game. Dominion est relativement un titre qui va revenir souvent d'un jeu qui nous a lancé dans le board game pour les plus anciens, si je pourrais dire.
Je peux dire, en fait, que moi, quand je jouais beaucoup, en fait, à des jeux avec mon frère quand j'étais jeune, mais c'était lui qui avait la collection de jeux. Donc, quand j'ai quitté la maison familiale, j'avais plus rien. Et le premier que je me suis racheté, ça a été Dominion.
Voilà. Mais ça n'a pas toujours été des... Moi, c'est, sincèrement, il m'a été présenté un petit peu trop tôt dans mon cheminement du board game. Je me rappelle, c'était un de mes amis qui m'avait présenté ça. Il me montrait, hey, c'est extraordinaire ça. Parce que, tu sais, j'étais un joueur de cartes. Au début, j'ai des jeux à collectionner. J'avais découvert ça. Puis il m'a présenté ça. Je comprenais pas trop le principe, justement, d'améliorer son deck, parce que je me rends clairement compte que c'est un jeu que plus tu joues, plus t'es meilleur. Donc, mon ami Joey m'a sacré une de ses reins avec ça. Ça m'a comme enlevé le goût de rejouer, disons, à Dominion.
Fait que t'es pas devenu très bon, si je comprends bien.
Il no.
Mais Steve, t'as commencé les jeux de société sur le tard aussi. Donc, en 2008, tu jouais pas à des jeux.
Il était né? Il était même pas né, non?
J'ai commencé les jeux, en fait, en février cette année, là, tu sais. Donc, sinon, selon vous, pour faire une petite discussion finale, c'est est-ce que Dominion est toujours d'actualité? C'est toujours un bon jeu d'introduction, selon vous?
Ben, en fait, c'est Dominion, c'est un bon jeu d'introduction, en fait, mais faut que ça soit bien présenté. Si vous jouez avec contre des nouveaux joueurs, ben essayez de pas les démolir, parce que ça décourage des gens qui...
En fait, c'est drôle si tu dis ça, c'est un bon jeu d'introduction en 2009-2010, tu sais. Maintenant, je l'utiliserai plus comme un jeu d'introduction, Dominion. Là,
non, le prochain que je vais parler, je pense que oui, Simon.
Probablement plus, oui, effectivement.
Mais il faut dire aussi que Dominion a créé beaucoup de petits bébés avec cette mécanique-là qui a popularisé, dans le fond. Il y a environ, tu sais, aujourd'hui, il y a autour de 4335 jeux de répertoriés sur BGG qu'on parle de construction de l'eau, je vous dirais. Puis ça a quand même évolué pas mal, disons, l'aspect de construction de l'eau.
Ce qui est le fun, c'est qu'on voit des variantes du deck building aussi. Donc, on parlait de construction de sacs tantôt, avec des jetons, style Orléans ou les charlatans. On a aussi du dice building, dans le sens que t'as des espèces de poules avec des dés au lieu des jetons. Là, je pense à Roll for the Galaxy, par exemple, là, qui est un bon exemple. Donc, c'est vraiment des variantes qui découlent de ça. Le deck building étant peut-être plus facile à gérer au niveau du matériel, mais les autres permettent aussi certaines affaires plus rapides, c'est-à-dire que disons que tu piges des jetons dans ton sac, puis à la fin du tour, tu dois les remettre dedans. On s'entend que brasser un petit sac, ça prend 2 secondes. Brasser un paquet de cartes pour que ça soit vraiment bien mélangé, c'est un peu plus long.
Tu sais, il y a un dizaine de jeux de coop, tu sens qu'il y avait une manière particulière, eux autres, de gérer la défausse.
Non, c'est, tu fais juste le flipper à l'envers, tu l'as. Donc vraiment, très, très, très influent. Mais
ben,
peut-être...
D'ailleurs, moi, c'est une de mes mécaniques favorites. Hein, c'est toute catégorie confondue, là, c'est une de celles que j'apprécie le plus. On parle de Dominion, mais j'aime bien aussi toujours parler un peu de son petit frère, tu sais, qui est Star Realm. À une époque où...
Ouais, ou Hero Realms.
Ben, ouais, ou Hero Realms, là, si vous êtes vraiment mal pris, là. pour tu sais, à une époque en 2014 où on pensait que les deck building avaient tout été comme faites, Star Realm arrive, une espèce de version ultra compacte de Dominion, et là, ben, ça a relancé le bal, où maintenant, c'est rare, des gros jeux, là, ils vont tout avoir une espèce d'élément de deck building, puis c'est quelque chose d'assez commun qu'on voit un peu à toutes les sauces.
Si tu veux un autre deck building assez compact, je peux te suggérer Dales of Merchant, qui est dans une toute petite boîte, là, il y a seulement juste des cartes, il n'y a rien d'autre là-dedans.
Yeah, Dales of Merchant, quelle merde.
C'est excellent, Dales of Merchant. Ah.
Days of Merchant.
Dale of Merchants. C'est un auteur finlandais qui a fait ça.
Dale of Merchants. OK. Ouais. C'est bon, je l'ai mis dans ma liste.
J'ai ça dans ma collection, moi j'aime bien.
OK.
Mais
Steve n'aime pas, c'est ça que je comprends.
Bon.
Ah, c'est tellement redondant, je trouve, Dale of Merchant. J'ai l'impression de toujours faire la même chose. Tu vas chercher des cartes, et après ça, tu fais une shit load que tu défausses, t'es un gros paquet. Après ça, tu recommences. Toujours un peu la même chose.
C'était pas son style. Le troisième jeu de 2008, qui, selon moi, est probablement le plus gros, pas nécessairement en termes de grosseur de boîte, là, mais en termes d'influence, On s'entend, en 2009, il a gagné l'As d'or du jeu de l'année, le jeu de l'année en Espagne, le Lys grand public au Québec, le meilleur jeu d'initiation au Portugal, le meilleur jeu familial en Belgique, meilleur jeu familial en Autriche. Il est devenu le premier jeu avec un auteur et un éditeur français à gagner le Spiel des Jahres en 2010. Donc, tantôt on parlait de Dominion en 2009, mais lui n'est pas sorti en allemand avant une année plus tard.
Passif!
Et le premier jeu de l'éditeur français Libellude, en fait. C'est leur premier jeu. Et évidemment, leur plus grand succès encore à ce jour. Je ne l'ai pas encore nommé, mais si on reconnaît le nom de l'illustratrice, on reconnaîtra pas nécessairement le nom de l'auteur. Ça, je parle de Dixit. Dixit, l'auteur de Dixit, il a pas beaucoup de jeux à son actif. Donc, on parle de deux autres jeux qui sont sortis. Donc, il y en a sorti avant aussi, mais c'était vraiment des très marginales. Il y a Felynx qui est sorti il y a quelques années, qui est un jeu pour jouer avec les plus jeunes aussi. Et Stella, qui est un peu un dérivé de Dixit aussi. Donc, il s'inspire du même univers, les mêmes illustrations. Jean-Louis Roubira. Dans sa vie de tous les jours, c'était un psychiatre pour enfants. C'est l'arrivée sur le marché de Trivial Pursuit, donc ou quelques arpents de piège au Québec, qui a fait un déclic dans sa tête. Il voyait beaucoup de gens jouer alors qu'ils jouaient à rien avant ça. On parle des années 80, évidemment. Il dit ça créait un petit quelque chose au niveau des relations sociales, le fait de jouer à des jeux de société qu'il n'avait jamais vu avant. Et c'est ça qui lui a donné envie de créer des jeux, de voir ces interactions sociales-là. Le design de Dixit a débuté en 2002 à peu près. Donc on parle de 2002 à 2008, ce qui est quand même 6 ans. Donc pour ceux qui pensent produire et éditer un jeu à l'intérieur d'un an, oubliez ça. Mais c'est vraiment à partir de 2005 que ça l'a décollé.
Donc, il a découpé des photos dans des magazines, hein, je pense, c'est ça?
Oui,
bonnes images.
Oui, effectivement, il y avait ça au début. Puis en fait, après ça, il prenait les des cartes qu'il y avait dans les magazines jeunesse de Bayard. Donc, ouais, il prenait ces images-là qui étaient un petit peu abstraites. Donc, ça fitait parfaitement avec son idée. Mais c'est vraiment à partir de 2005, il a apporté une copie au centre pour adolescents où il travaillait. Donc, évidemment, je répète qu'il était pédopsychiatre. Et c'est là que c'est vraiment que ça décolle. Donc, les adolescents ont adoré, les travailleurs ont adoré ça. Et la raison principale pour laquelle le jeu a été publié au départ, c'est justement parce que plusieurs centres éducatifs ont démontré de l'intérêt pour le jeu. À des fins thérapeutiques et pédagogiques, en fait. Ça rendait le jeu viable au niveau commercial. Et c'est son bon ami, Monsieur Bonassé, donc, qui venait de partir sa maison d'édition Libellude, qui l'a appelé, donc, pour l'éditer. La première impression était de 5000 copies. Donc, on parle de 1000 copies pour les centres professionnels et 4000 copies pour le grand public. Et ça s'est vendu dans le temps de le dire. C'est pas surprenant quand on y pense, les 1000 copies pour les centres professionnels, parce que c'était un jeu qui fait appel à l'imagination des personnes et aussi à interpréter des images un peu abstraites, un peu poétiques. Donc, à y apposer des mots, une chanson, une phrase. Le jeu, à la base...
Tu vas puiser dans ton intériorité, ça, c'est clair.
Exact. Tu vas puiser dans tes émotions, dans tes souvenirs, dans tes références à toi. Et des fois aussi dans les références de d'autres joueurs. Donc le jeu à la base, c'est un outil de psychanalyse, en quelque sorte, auquel on a ajouté des règles pour le pointage. Vulgarisé, c'est à peu près ça que c'est.
Des règles vraiment compliquées, malheureusement.
Ouais, le règle de scoring est peut-être un peu complexe pour ça, mais c'est le seul petit défaut que je peux lui trouver, là. Pour Monsieur Roubira, donc, l'imagination est une question de survie psychologique. Il croit que Dixit doit sa popularité aux illustrations, évidemment, puisqu'elles vont souvent rappeler des souvenirs aux joueurs, évoquer des émotions, comme des petits morceaux de rêve ou des fenêtres à l'imagination. À la question « Pourquoi est-ce que les gens recherchent les mondes fictifs ?» l'auteur a répondu « La réalité d'aujourd'hui est très dure, elle fait peur aux gens. » Il est difficile de s'épanouir dans un monde violent, alors les mondes fictifs nous procurent des espaces où l'on peut exister de façon imaginaire, se sentir libre, puissant et en sécurité. C'est un peu ce que les images de Dixit voulaient transmettre au départ. Donc ce sont des images qui sont poétiques, qui sont douces. Il y a rien là-dedans qui va évoquer des sentiments agressifs ou violents. Donc c'est vraiment des images...
Vous avez jamais joué avec moi, hein?
Ouais, toi t'as un esprit tordu, Simon, ça compte pas.
Ouais, ben c'est pour ça, moi je jouais à ça en tout cas, c'est bon.
Et en fait, pour créer le jeu, il s'est largement inspiré d'un jeu auquel il jouait dans les années 80, quand il était étudiant, et c'est le fameux jeu du dictionnaire. Donc les plus âgés comme moi vont peut-être savoir ce que c'est. En gros, on ouvre le dictionnaire, on regarde un mot secrètement, et tous les joueurs doivent écrire une définition sur un petit bout de papier, pensant donc si la définition qu'ils pensent que ce que ça veut dire, et celui qui a pointé le mot doit écrire la vraie définition sur un bout de papier. On mélange les bouts de papier, puis là on lit toutes les phrases, puis on essaie de deviner c'était laquelle la vraie définition.
Donc, je voulais toujours jouer à ce jeu-là quand j'étais jeune. Oui, toujours, et il y avait personne qui voulait jouer avec moi.
C'est très drôle parce que...
Moi aussi, il y avait un jeu, c'était Malarkey, je pense.
Malarkey.
Oui, c'est ça, drette ça.
Ouais, Malarkey, c'était un peu la version simplifiée de ça, effectivement, ouais.
Mais on regarde dans les mécaniques que c'est exactement ce qui dit que c'est, là. Donc, c'est juste que ils voulaient créer un jeu du même style, mais où les joueurs sont des créateurs ou des auteurs eux-mêmes sans avoir besoin de lire ou d'écrire. Donc là, on se retrouve à avoir des images plutôt que des mots. Donc, on n'a pas besoin d'écrire de définition ou de savoir lire. Le gros avantage de ça, pour lui, c'est qu'il pouvait travailler avec des jeunes enfants qui ne savent pas nécessairement lire ou écrire. Donc ça, c'était vraiment l'intérêt au niveau psychologique de ce projet-là. La montée en force de Facebook depuis 2006, qu'on a mentionné tantôt, MySpace qui est encore au sommet des réseaux sociaux en 2008, ce qui est quand même très drôle quand on y pense, parce que c'est complètement mort aujourd'hui. Les relations sociales commencent à se transformer, le social se virtualise. On se parle de moins en moins, on fait plus de textos, du chat. Alors si Monsieur Roubira voulait au départ rapprocher les gens en créant des jeux de société, je crois qu'il est arrivé au bon moment. Donc à une époque où les gens commençaient à se distancer, lui a essayé de les rapprocher.
Bien dit. D'ailleurs, tu...
Ah, ouais. Oui, vas-y, donc, vas-y.
Ben, ce jeu-là, c'est un des jeux que j'ai le plus joué dans ma vie, là, justement, étant dans mon pic de jeux à cette époque et à toutes les parties de Noël, à toutes les rencontres familiales, j'apportais ce jeu tellement facile à jouer. Dans les derniers souvenirs que j'ai de ma grand-mère avant qu'elle meure, en fait, dans un souper de Noël, elle a joué avec nous. C'est la seule fois où j'ai joué, à part des jeux de cartes quand on était jeune.
Est-ce qu'elle est morte dans le souper de Noël?
Non, elle est morte pendant. Quand même. Elle est morte en jouant à Dixit, finalement. Non, c'est ça.
C'est une belle mort. Je souhaite ça.
À tout le monde. C'est la mort idéale, mort en jouant à Dixit. Mais les gens ont une fascination pour ce jeu, et je vous le dis, systématiquement, je faisais jouer ce jeu à des gens. Je les revoyais une, deux semaines plus tard, ils me disaient « Hey, je suis allé acheter Dixit. » C'était un jeu qui se transférait réellement. On parlait de pandémie tantôt, mais là, il y avait une contamination réelle avec Dixit. Là.
L'affaire, c'est que c'est un jeu que tu peux jouer avec n'importe qui.
Ah, c'est ça.
T'as pas besoin d'être un joueur, tu t'as pas besoin d'avoir un certain âge, il y a pas de lecture, il y a rien, que des images. C'est vrai, tellement accessible, et ça rend de bonne humeur.
En plus, peu importe la langue qu'on parle autour de la table, avec Dixit, on parle toute la même langue, en fait. C'est ce qui rend le jeu assez particulier.
D'ailleurs, l'auteur, Monsieur Roubira, il s'est fait poser la question, c'était quoi son plus beau souvenir de jeu de Dixit qu'il jouait? Et il a répondu que c'est quand il était allé à Gen Con, et qu'il jouait avec 6 personnes qui venaient toutes de pays différents et qui parlaient des langues différentes. Donc, il dit, c'est la beauté de la chose, ça rassemble tout le monde. Je veux aussi dire, l'illustratrice, on va parler de Marie Cardois vite. Marie Cardois, donc l'influence sur ce jeu-là, elle est évidemment extrêmement importante. C'est une femme qui avait commencé des études en administration, donc au HEC en France, avant de changer d'orientation parce qu'elle s'est rendue compte que c'est pas ça qu'elle voulait faire dans la vie. Elle a fait 5 ans d'études en art, dont, étrangement, 1 an à l'Université de Montréal. Donc,
ah ouais, ok.
Oh oui, elle est venue étudier à Montréal 1 an en échange étudiant, donc durant son parcours. Et elle dit qu'elle a beaucoup appris d'ailleurs à l'Université de Montréal, ce qui est quand même le fun à savoir. Elle commençait à peine à travailler dans le domaine de l'illustration, donc elle a commencé, elle est sortie de l'école en 2006. Et elle a obtenu le contrat pour Dixit parce que, comme tu as mentionné tantôt, Monsieur Roubira utilisait des images qu'il prenait dans des magazines pour enfants, donc dans les Bayard. Et quand il a approché justement Bayard pour pouvoir avoir les droits sur ces images-là, il s'est fait revirer de bord. Et ça l'a complètement jeté à terre parce qu'il pensait être capable.
Parce que lui, c'était les images de rêve là, pour
oui,
lui.
Ça faisait déjà 2 ans que le jeu roulait
avec le jeu, ouais,
c'est ça, avec ces images-là. Puis après ça, il était plus capable de concevoir qu'il pouvait sortir le jeu sans ces images-là. Il était comme complètement au dépourvu. Donc, ils ont quand même mis une petite annonce puis ils sont tombés sur la candidature de Marie Cardois. Donc, elle faisait surtout des cartes postales avant ça. Mais avait toujours eu un penchant pour l'illustration jeunesse, donc les univers poétiques, dont son style pour Dixit était parfait. Ça a été une des raisons en fait du succès monstre de ce jeu-là, on se le cachera pas. C'est pour ça que probablement que les gens connaissent plus le nom de l'illustratrice que de l'auteur du jeu, ce qui est un peu quand même impressionnant. Donc mais Marie Cardois aimerait aborder un autre univers dans ses créations. C'est ce que j'ai découvert sur elle. Et c'est l'univers érotique. Ce qui est quand même loin de l'univers de Dixit.
Ben non, je vous l'ai dit, moi, dans les dessins de Dixit, là, une carte sur deux, il y a des doubles sens. Là.
Mais c'est quand même très drôle. On est quand même assez loin de ce style d'illustration-là. Ouais.
Ça dépend comment elle est faite, là. Mais en tout cas, moi, dans Dixit, les références, les doubles sens, ils sont assez nombreux.
Je te dis que t'as l'esprit tordu, Simon.
Peut-être.
Tu vois des symboles phalliques partout, probablement.
Peut-être.
Donc, avec les superbes illustrations de Marie Cardois, donc, on pourrait dire, en fait, que Dixit a pavé la voie pour les beaux jeux. Il en a fait un des premiers jeux à baser son marketing sur les illustrations et le visuel en premier. Donc ça fonctionne parce que il s'est déjà vendu, attention, à plus de 11 millions d'exemplaires déjà.
Oh.
C'est énorme.
Ouais. D'ailleurs, tu parlais de ça, mais il y a une entrevue en particulier là que j'avais vue sur YouTube avec Jean-Louis Roubia où il parle du processus de la création des premières cartes de Dixit là. Et c'était tout un travail avec l'artiste là, où il faisait des centaines de versions de cartes différentes pour en choisir 2-3. Il faisait beaucoup de sketchs, beaucoup d'idées. Il y a eu énormément de travail, surtout dans la première version. Après ça, j'imagine qu'il y avait une espèce de pattern. Même maintenant, les nouvelles extensions, c'est même plus la même. Je pense qu'ils sont allés avec d'autres illustrateurs, illustratrices. Ils ont fait varier. Mais au début, là, trouver des genres de double sens, mais que ça soit onirique en même temps. Puis je pense qu'ils ont fait beaucoup de travail de recherche et de sketch
oui.
Là-dessus.
Ça reste que c'est un psychologue aussi. Fait que lui, il interprétait les images du mieux qu'il pouvait et de plusieurs façons.
Ça, c'est un symbole phallique. Ah, ça, c'est le concept d'Œdipe refoulé. OK, ouais.
Moi, je vous pose une question. Je vous pose une question, les gars. Est-ce qu'on va voir un jour un Dixit ou, en fait, un genre de jeu Dixit sans les illustrations de Marie Cardois avec de l'art généré par intelligence artificielle?
En fait, c'est drôle que tu parles de ça parce que moi, j'ai écrit à un groupe de programmeurs là, en fait à une intelligence artificielle qui s'appelle Midjourney. Je sais pas si vous l'avez
oui,
vu.
Oui, c'est un des plus gros en fait.
Un des plus gros en ce moment. Puis moi je leur ai écrit en leur disant j'ai une idée de jeu à faire avec votre intelligence artificielle. Est-ce que ça vous intéresse et tout? Ils m'ont pas répondu encore. Mais fait que je suis sûr que oui. Tu sais, la réponse c'est je suis sûr que oui. En fait, c'est écrit dans le ciel. Est-ce que ça va être bon? Ça va-tu être intéressant à suivre? Mais c'est sûr que oui. Et même au-delà d'un jeu comme Dixit, ça pourrait être un jeu bien normal que les dessins seraient faits par un AI. Là,
c'est ce que je pense aussi. Mais la seule chose, je ne crois pas que Dixit lui-même va se lancer là-dedans. Je ne crois pas qu'on va voir un
genre
jeu.
Dixit oui. Et extension 25
oui, genre extension Midjourney là, genre je ne pense pas que Dixit va se rentrer là-dedans parce que la réputation de jeu là est vraiment fondée en grande partie sur les illustrations de Marie Gardois. Et je pense pas que Libellule va tomber. Ben enfin encore une bonne partie. Donc mais je pense pas que Libellule ne va vraiment tomber dans le piège, donc c'est mais bon, cette opinion-là va peut-être vieillir comme du lait, là. Mais je vais tenir mon bout pareil.
Du lait d'amande ou du lait de vache?
Ça vieillit aussi bien l'un que l'autre.
Il y en a un qui devient du yogourt.
ils finissent par faire des motons, l'un et l'autre. Donc, c'est là-dessus que je vais terminer sur Dixit, mais effectivement, un jeu incroyable.
Ah oui oui qui va c'est un point tournant dans l'univers du jeu de société. Quand on disait 2008, on parlera pas de beaucoup de jeux, mais ceux qu'on va parler, ils auront eu un impact majeur en fait dans le monde du jeu.
Sinon on peut parler vite de d'autres jeux, tu sais il y a eu entre autres le classique Battlestar Galactica qui a quand même marqué son moment là, où est-ce qu'il y avait justement la mécanique de traite à travers d'un jeu là, c'est pas le premier, mais ça a été extrêmement populaire tout de même.
Ouais, Shadows over Camelot qui avait introduit un peu la notion de traître.
Par contre, la particularité qu'il avait, lui, c'est que, tu sais, on pouvait devenir un Cylon dans le jeu, mais on pouvait, dans le fond, changer d'allégeance pendant la partie. Donc, on essayait justement de s'aider si on n'était pas des Cylons, mais pas trop, justement, parce qu'on pouvait tomber dans l'autre équipe, qu'on voulait pas se nuire à long terme. Tu sais, c'est un jeu qui... C'est un jeu de quoi? 2 à 3 heures à peu près?
C'est 3 à 5 heures, ouais. C'est
puis
pas
l'aspect fou aussi
là.
Du jeu, c'est justement c'est au niveau de la revente du jeu, où est-ce que ce jeu-là a pris une valeur assez astronomique, là. Même les extensions, ils se vendaient à un prix de fou, là. On en trouvait facilement, justement, au-dessus de 100$, alors que c'était un jeu, je pense, qui se vendait à 60$, mais dans l'usager, justement, ça avait boosté les prix en fou.
Ah, autour de 100$, il y en a souvent qui se vendent 200, effectivement.
Fait, la raison pourquoi qu'il se fait plus, c'est juste à cause de la propriété intellectuelle. Donc, ils ont plus les droits sur Battlestar Galactica, mais ils ont refait une version...
Ouais, la version Cthulhu.
Ouais, Unfathomable, donc l'insondable, qui est sorti, je pense, l'année dernière, en 2021, qui a évidemment une thématique de Cthulhu. Quelle surprise! Parce que tous les jeux de Fantasy Flight ont des thématiques de
parce
Cthulhu.
Parce que Cthulhu, c'est libre de droit.
Et oui, depuis à peu près quoi, 15 ans, 20 ans, je pense, c'est libre de droit.
Et ça marche-tu bien? Parce que je sais qu'un des attraits de Battlestar Galactica, puis c'est que la thématique, les gens qui trippent sur la série... vont encore plus aimer le jeu ou vice-versa, les gens qui vont jouer au jeu vont découvrir la série par la suite et vont comme vouloir rejouer. Je pense qu'il y a quand même aussi ce côté où c'est tellement bien imbriqué. Tu sais, là, on voit ça, c'est une franchise. Maintenant, c'est tellement classique de voir des jeux qui sont issus de franchises. Mais là, à ce moment-là, c'était vraiment le but de s'inspirer de cette histoire et de la transmettre dans un jeu, mais pas juste plug-in une thématique sur des mécaniques.
Encore une fois, en plus, Battlestar Galactica, on me l'avait présenté ben trop de bonheur. Je sais même pas si j'avais joué à Dominion justement à ce moment-là, puis on m'a présenté Battlestar Galactica. C'était complètement over ce que j'étais capable d'absorber comme règle.
C'est qui ce gars-là? On va le wedger, là.
On va faire un beau salut à mon ami Joey.
Ah non! Il va falloir censurer son nom. Bébé.
Joey, franchement.
Joey...
Bon, on va passer des prochains jeux. Là. Antoine, je pense que t'en as d'autres jeux. Là.
Oui, ben en fait, j'en ai 2-3, moi, que je veux mentionner. Il y en a un, en fait, qui est Stone Age. Donc, on ne se cachera pas, Stone Age est très important aussi dans l'univers ludique.
Le jeu le plus surévalué de l'univers ludique.
C'est un peu aussi mon opinion, pour être franc, mais en 2008, il avait quand même beaucoup son importance. Donc, Hans Imgluck, donc l'éditeur qui était derrière le méga hit Carcassonne, a quand même publié un des premiers worker placement qui se voulait plus grand public ou gateway. les jeux de placement d'ouvriers à ce moment-là étaient quand même des jeux pour les joueurs. N'étaient pas nécessairement des jeux grand public. Il y avait beaucoup de gestion de ressources, il y avait quand même beaucoup de règles. Stone Age est quand même une référence encore aujourd'hui pour être un des premiers, sinon le premier jeu à mélanger la stratégie du placement d'ouvriers avec l'excitation des roulements de dés. Donc, ces roulements de dés-là rendent le jeu plus accessible, donc plus permissif, et donnent plus de chance aux débutants. Donc, je pense que c'est là-dessus que c'est vraiment démarqué. C'est l'auteur de Saint-Pétersbourg en 2004.
Ah, ça c'est bon par exemple.
qui avait connu un gros succès d'ailleurs Saint-Pétersbourg, qui est Bernd Brunhofer, mais en fait c'est pas son vrai nom. Son vrai nom, Bernd Brunhofer c'est son vrai nom, mais il publiait toujours sous le nom de Michael ou Michael Tumelhofer. Donc appelez-le comme vous voulez. En tout cas, il y a plein de noms différents, mais il utilise souvent un pen name comme on dit. Un alias. Je peux vous parler aussi vite de Piece of Cake. Piece of Cake, donc, est un des premiers jeux à utiliser une mécanique pure de I Split You Choose. Donc,
j'adore tellement cette mécanique-là, mais c'est tellement sous-utilisé.
Il n'y en a pas des tonnes de jeux encore qui utilisent cette mécanique-là. Donc, un joueur va séparer des éléments en lots. Chaque joueur va prendre un lot. Et lui, celui qui a séparé, donc, va se garder le dernier restant. Donc, ça l'oblige à faire des lots relativement égaux ou de faire un petit lot avec les éléments qu'il veut absolument pour peut-être que les autres ne le prennent pas. Donc c'est vraiment un jeu de séparation équitable à la le roi le juif là qui s'amusait à couper les bébés en deux. Non, il a été refait sous le nom de New York Slice dernièrement.
Thématique un petit peu plus grand public, disons-le.
Oh, oui, parlait pas de couper des bébés en deux, mais bon.
Non, mais en fait, c'est drôle que tu parles de ça, parce que ça, à chaque fois qu'on parle de cette mécanique-là, ça me ramène dans ma bonne époque, là, à l'époque où on achetait du pot illégalement, là. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça sur un micro, mais et on utilisait toujours cette mécanique-là pour séparer qu'est-ce qu'on achetait. Nous, on n'avait pas de balance, on était un peu, tu sais, on achetait, puis là, la personne séparait ça et les autres devaient choisir leur portion. Fait que t'avais vraiment intérêt à bien les séparer. Tu sais, il y avait quelque chose de très cool là-dedans. Là.
En fait, finalement, on pourrait faire un nouveau jeu de Split You Choose avec une thématique de pot.
Ouais, mais là, maintenant, le pot, c'est légal. T'achètes ça, c'est déjà roulé. Là. C'est comme pareil. Là.
C'est plate.
Ouais, c'est ça avec la coke. Ouais.
Fait que, finalement, c'est ça, il a été refait sous le nom de New York Slice derrière moi, avec une thématique de pizza plutôt qu'une thématique de gâteau. Ça rajoute des éléments supplémentaires aussi, mais ça reste un jeu qui est très joli, qui a un bel emballage, là, en fait. Le Piece of Cake est plus nécessairement trouvable, mais New York Slice, sans problème. Et le roi dont je parlais, en fait, c'est le roi Salomon.
Mais il coupait vraiment les bébés, j'ai pas entendu parler de ça.
Dans la Bible, en fait, le roi Salomon, t'as deux femmes qui prétendent être la mère d'un même bébé, d'un même enfant. Et la solution que Salomon trouve, il dit, c'est de couper l'enfant en deux, puis d'en remettre la moitié à chacune des femmes. Comme ça, les deux vont être contents.
Il choisit la moitié. Tu as choisi la moitié, là, ou tu veux juste nous raconter des enfants morbides, là?
En fait, il le fait pas. Il donne ça comme solution, puis en fait, la vraie mère...
T'es même pas une des deux, c'est ça?
Et en fait, il a dit non, c'est correct, tu peux. Je laisse l'enfant à l'autre.
Elle a dit non parce qu'elle voulait pas que son enfant meure.
Exact.
Elle l'a pris.
Donc là, il a su c'était laquelle la vraie mère des deux parce que
c'était un fils, elle
était capable de sacrifier son enfant pour qu'il vive. Alors, c'était Piece of Cake.
Sinon, on peut pas passer sous silence. Selon moi, le meilleur jeu de Uwe Rosenberg. Lancez-moi des roches si vous êtes pas d'accord, mais. Moi, c'est le Havre.
C'est Pitch and Rush virtuel.
Non, les fans de Odin's Raven. Je pense que c'est ça l'autre gros. Mais je t'avouerais que le Havre à trois joueurs, dans mes meilleures expériences de jeu...
Max 3.
À trois. Le Havre à 3, je le joue à 3 seulement et c'est dans les meilleures expériences. C'est quand même épique, hein, quand même, ça dure pas non plus 20 minutes là, fait que.
Ah, moi je l'adore à 2 joueurs. Là. Il y a une petite tension justement de pousser sa chance. Quand est-ce qu'on va prendre le lot de poissons qui traînent pour se préparer à la fin de du tour là. À 2 joueurs, justement, c'est tellement fluide, là. Les tours passent vite, justement, c'est back and forth, c'est vraiment trop excellent.
Ouais.
J'ai jamais joué à 2.
C'est un jeu 2 à 5, mais il devrait pas se jouer à plus que 3.
Non, je l'ai jamais joué à deux.
Et que serait un jeu de Rosenberg sans qu'on doive nourrir nos fameux ouvriers, justement, à la fin, où est-ce qu'il y a une bunch de nourriture qu'il faut donner, pis on n'est jamais prête, justement. Ah, c'est pas trop, je suis pas prête. Ça va trop vite. Mais Colin qui nous met toujours ça dans la face, toujours nourrir nos ouvriers dans tous ces maudits jeux.
Avant que Rosenberg découvre les tétraminos, là, qui soient complètement détruits.
Oui.
Au moment où il aimait encore les cartes, là, pis il faisait des jeux de cartes.
Dans Patchwork, faut pas les nourrir.
ben je vais y aller justement avec un autre en rafale, Space Alert, donc un jeu coopératif aussi. On en parlait de Vlada Jvatil, hein, bien entendu, avant le succès
qu'il a connu.
En temps réel avec une trame sonore derrière. Un peu mal chié malgré tout la trame sonore là, mais maintenant ça a été avec là, maintenant il y a une application puis tout est là puis c'est mieux fait, mais au début c'était sur un CD là. J'ai beaucoup aimé ce jeu, en fait un jeu coopératif très 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 difficile avec des missions de plus en plus difficiles, bien entendu beaucoup de choses à gérer. Comme c'est en temps réel, ça demande aussi vraiment une espèce de collaboration de style de gestion de vaisseau spatial là. Donc quelqu'un va prendre un rôle un peu plus de leadership, puis on va vraiment sentir ça, puis si les gens prennent pas leur rôle, c'est là que vous allez avoir des problèmes. Et je glisse vite sur un autre jeu coopératif qui est probablement mon jeu coopératif préféré. On disait ça, c'est l'année des jeux coop. Là, ben il y a Space Alert qui est sorti en même temps que Pandémie, qui était très difficile. Mais il y a le chef-d'œuvre d'Antoine Boza, qui est Ghost Stories.
Ah oui, le fameux jeu impossible à gagner.
Ouais, ben là, moi, j'ai une liste de mes victoires. Pour de vrai, Ghost Stories, maintenant, je gagne la plupart du temps là que je joue. Mais j'ai joué vraiment beaucoup. J'ai joué, en fait, mais je joue que seul à ce jeu-là. Je joue jamais avec personne.
Il a été refait lui aussi en 2019.
Oui, Last Bastion.
Ouais, Last Bastion.
Ouais, je l'ai pas regardé celui-là, mais Ghost Stories, magnifique jeu. D'ailleurs, l'une de mes bonnes anecdotes de Ghost Stories, on est dans un chalet entre amis, on est il est comme 2h du matin, tout le monde est couché. Et il y a un gros walk-in dans une des chambres. Je m'installe là, je commence à jouer à Ghost Story tout seul la nuit. Il y a une fille emmenée, elle ouvre la porte, elle fait juste me regarder. Elle referme la porte, elle s'en va.
Ça reste moins pire que t'as un poignet en train de te branler dans le walk-in.
Ouais, c'est ça, exactement. Mais j'adore ce jeu, tellement intelligent, tellement simple et surtout excessivement difficile. Un jeu qui nous transmet la peur. Hein? Parce que tu te fais défoncer par des monstres et sortis d'outre-monde. Mais vraiment très très bien foutu comme jeu coop.
Je suspecte que le remake, en fait, a été fait en partie parce que c'était... La thématique originale était une thématique chinoise et qu'ils voulaient plus trop rentrer dans l'appropriation culturelle.
Mais je pense qu'en tant que tel, niveau gameplay, c'est le même jeu.
Ils ont changé quelques règles, je pense, aussi. Là. Ils l'ont peut-être un peu rendu moins compliqué à gagner, le moins difficile, en fait. D'autres jeux importants de cette époque-là qu'on va juste mentionner vite en rafale, Formula D.
Vite là, tu peux pas nommer
Formula D. Formula D, écoute, c'est un jeu de course de voiture avec des polyédriques.
C'est vrai. Je prépare encore l'épisode où je vais vous parler de Formula A, qui est le remake maison de Formula D auquel on joue. Là.
Ouais, la fameuse version Grand Prix de Simon.
Ouais, puis les règles modifiées, il y a plus d'affaires de rouler la résonance de ton moteur, oubliez ça, c'est de la merde.
Il y a aussi le jeu Fauna qui était sorti en 2008, donc un jeu de Freedom and Freeze.
Il avait fait pour conquérir sa douce moitié. Là.
Mais finalement, il s'est séparé après.
Ouais, c'est ça, elle
a
pas aimé ça, je pense.
Il y a aussi le jeu jouet Toc Toc Woodman qui est sorti cette année-là.
C'est quoi ça?
Toc Toc Woodman, c'est un jeu, donc c'est une espèce de pile de d'anneaux, je dirais, qui sont empilés. Ça fait une espèce de pilier qui représente un arbre, en fait. Puis t'as des morceaux d'écorce qui sont comme rentrés par les côtés. Et pour pouvoir les faire tomber, tu dois taper avec une espèce de petite hache en plastique sur l'arbre pour que les cercles se décentrent, donc se déplacent un peu. Et comme ça, les morceaux d'écorce peuvent tomber vers le bas.
Et a smashing ramasses. It Korean Game.
Donc, c'est ça, c'est Justin Ho qui avait fait ce jeu-là. Il a été ressorti à plusieurs reprises. Donc, c'est Korea Board Games qui avait sorti ça au départ. Mais au Québec, on a eu une version faite par Foxmind, si je me souviens bien. Donc, je pense qu'il s'appelait Tac-Tac-Jack.
Tac-Tac-Woodman. Tac-Tac-Jack, ouais.
Ou Click-Clack-Lumberjack. En fait, même Korea Bird Games a fait une version. Donc, c'est un mineur au lieu d'être un Lumberjack. Qui s'appelle Bling-Bling Gemstone. Donc, qui est très joli visuellement, par exemple. Et au lieu d'avoir une hache, t'as une pioche. Mais ça reste le même jeu au départ. Et il y a aussi eu un remake qui était supposé sortir par Kickstarter, mais qui s'est fait montrer la porte assez rapidement, qui s'appelle Bamboo Bash, qu'une compagnie américaine, si je me souviens bien, c'est-tu Mayfair, ou la nouvelle compagnie qui a remplacé Mayfair Games, qui a essayé de sortir ça, parce que ils avaient perdu la licence pour Toc Toc Woodman. Donc, ils ont voulu faire leur copie de Toc Toc Woodman, qui était à peu près la même chose, et ça s'appelait Bamboo Bash. Mais ça n'a jamais levé parce que les gens se sont...
C'était un rip-off.
Se sont groupés pour justement le descendre et le dénoncer comme étant un rip-off.
D'ailleurs, dans un épisode de Balado Ludique antérieur où on parle des droits d'auteur sur les jeux de société, on parle de ce cas-là un petit peu plus en détail. Là.
Oui, ça a vraiment... La campagne Kickstarter a été retirée. Les gens lui ont donné des notes de 1 sur BGG à n'en plus finir. Donc, il a un peu perdu sa réputation avec des jeux qui étaient pas très bonnes. Là, mais Fair Games faisait un peu des jeux poubelles. Mais bon, c'était pas... C'était pas une bonne idée de sa part.
Un autre jeu, peut-être en finissant rapidement, qui s'appelle Monopoly Deal Card.
Ouais, Monopoly Deal, qui est le petit jeu de cartes de Monopoly. Ouais,
c'est ça. Je sais que Monopoly a pas, t'sais, a pas une très bonne réputation, surtout auprès des gamers. Mais Monopoly Deal Card Game, un jeu que vous pouvez trouver au Walmart pour 5$ de temps en temps. Je vous dis, si vous trouvez ce jeu, ça vaut la peine de le mettre dans votre collection. C'est un tout petit jeu de cartes qui s'inspire de l'univers de Monopoly. Donc, on va acheter des propriétés, essayer de les vendre, mais qui fonctionne très bien, en fait, qui est une belle variation. Un beau petit jeu de cartes qui est juste inspiré de la franchise de Monopoly. Designé par une autrice, d'ailleurs, qui a pas fait grand-chose d'autre. Mais j'étais quand même étonné de voir que c'était une autrice qui avait travaillé là-dessus. Et ça vaut la peine. Ça vaut la peine de l'avoir dans votre collection.
On va la nommer, c'est Catherine Chapman.
Catherine Chapman, exact. Elle a fait une version de Clou, puis c'est pas mal oui. Tout. Mais
ouais. C'est une version qui dure 12 heures aussi, ça?
Ah, c'est 15 minutes. Puis c'est très cool, en fait. Pour de vrai, c'est les premières fois que j'avais vu ça, j'étais comme, ah, puis finalement, je l'ai trouvé au Walmart pour 5$, puis j'étais content.
Oui, c'est sérieusement entre ça puis Uno, je préfère ça de loin.
En même temps, Uno, si tu veux vendre du rabat.
Entre ça puis un coup de pied dans les gosses, je préfère ça à 100%.
Ouais, le choix est facile. Donc, c'est là qu'on va remercier les Patreons.
Ouais, merci beaucoup les Patreons de nous permettre de ne pas se faire violence à nous-mêmes. Alors, c'était 2008. Comme vous avez vu, pour de vrai, là, je vous disais au début, on a pratiquement nommé tous les jeux qui sont intéressants sortis en 2008. Là. Désolé si on n'a pas nommé un jeu que vous aimez en 2008, là, c'est pas pour faire de la peine. Mais ça reste que c'était une époque où il y avait beaucoup moins de jeux qui sortaient. Mais 2008 est une année de titans dans le monde du jeu. Pourtant, on a de la misère à sortir 15 jeux qui sont bons, tu sais, en 2008. Mais des jeux qui auront marqué à jamais leur époque. Merci les Patreons, merci à tous. Si vous appréciez nos épisodes, n'hésitez pas à partager. C'est la deuxième chose la plus utile pour nous. Et on approche la fin de la saison. Bon, on n'avait pas de party de fin de saison. C'est la première fois que Balado Ludique n'a pas de party de fin de saison. Mais peut-être que la saison 13, ça va juste être un gros party de fin de saison. Un épisode de 15 heures d'une shot qu'on va couper Fait que ça fait quelques fois que je fantasme un peu sur cet épisode complet là, enregistré d'une shot. Est-ce qu'on va réussir à le faire, à voir là, si on a la force avec nous dans les prochains temps. Mais messieurs, un dernier mot sur 2008?
Oui, mais en fait, moi je veux rappeler que c'est l'année où j'ai déménagé en Abitibi.
Ah.
Ça m'a marqué moi personnellement dans ma vie personnelle. Ça, je suis parti de Montréal pour déménager en région. Donc,
tu regrettes pas ton choix, t'es heureux?
Absolument
là-bas.
Pas.
Oui, moi de mon côté, je suis rentré à l'Université de Montréal et j'ai sorti de l'Université de Montréal la même année.
L'année que t'es rentré et sorti de l'université.
Bon ben, mesdames et messieurs et tous les autres, c'est la fin de cet épisode. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve la semaine prochaine pour l'année 2011 qui sera le dernier épisode de la saison 12. Ciao tout le monde.
Bye.
Juste un dernier mot. J'ai dû faire cet épisode-là une deuxième fois parce que mon enregistrement audio n'avait pas fonctionné puis ça nous tentait pas de refaire ça. Donc, j'ai dû m'enregistrer la voix par-dessus tous les commentaires de nos deux amis. Donc, j'espère que vous avez tout de même apprécié cet épisode-là qui était excellent. Donc, ciao à vous.